7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous tentons de décrypter la jeunesse chinoise, ou plutôt les jeunesses chinoises. Il y a 30 ans, le 4 juin 1989, des milliers d'étudiants étaient assassinés pour mettre fin à 7 semaines de manifestations place Tiananmen à Pékin. Les jeunes demandaient notamment plus de liberté d'expression, moins de corruption. 30 ans après, le tabou qui pèse sur ce massacre et l'ignorance totale des jeunes sur ces événements posent tout de même de nombreuses questions dans un pays qui fournit aussi le plus gros contingent de diplômés de la planète. La mémoire des jeunes de Tiananmen est-elle définitivement enterrée? Y a-t-il aujourd'hui des héritiers de Tiananmen? Des causes pour lesquelles les jeunes se mobilisent? Jusqu'où va la surveillance aussi dans les universités, sur la toile? Et puis avec le ralentissement de l'économie chinoise et la compétition aiguë pour trouver un emploi, les jeunes ont-ils encore un espace de réflexion libre au-delà des contingences matérielles et financières? Nous allons en discuter avec nos invités. Bonjour François Bougon.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au journal Le Monde. Vous avez été 5 ans correspondant en Chine de 2005 à 2010. Vous venez de publier « La Chine sous contrôle, Tiananmen, 1989-2019 » aux éditions du Seuil. Merci d'être avec nous en direct. Également avec nous Vanessa Franqueville, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de la Chine et des jeunesses en Asie à l'Université libre de Bruxelles. Nous serons en ligne dans quelques instants avec notre correspondant Stéphane Lagarde. Et quant à vous les voisins, vous pouvez nous appeler pour poser vos questions à nos invités sur cette jeunesse sous contrôle. Notre numéro ne change pas, 33 1 84 22 71 71, c'est le numéro de téléphone, c'est aussi le numéro WhatsApp pour nous laisser des messages ou nous appeler gratuitement et sans contrôle.
7 milliards de voisins, à la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine, 7 milliards de voisins.
Et pour démarrer cette émission sur les jeunesses chinoises, nous sommes en ligne avec Stéphane Lagarde. Vous êtes à Hong Kong. Bonjour Stéphane.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Stéphane, vous êtes à Hong Kong pour les commémorations de ce triste anniversaire. Une partie de la jeunesse de Hong Kong participera à la traditionnelle cérémonie aux bougies dans 2 heures maintenant dans un parc de la ville. Qu'en est-il du reste de la jeunesse chinoise ?
Ben beaucoup n'ont tout simplement pas entendu parler de Tiananmen, hein, Emmanuel. Ils n'en ont pas entendu parler à la radio, en tout cas, ni dans les journaux. Hein. C'est silence radio dans les médias d'État. Puis ils n'en ont pas entendu non plus parler à l'école, rien dans les manuels d'histoire. Et enfin, c'est peut-être, moi, ce qui me touche le plus, on est dans une omerta d'État, c'est vrai, mais on est aussi dans un déni générationnel. Les parents, les anciens de Tiananmen n'ont rien dit, en tout cas une partie, n'ont rien dit à leurs enfants. Pourquoi ? Peut-être en raison du traumatisme, mais aussi pour ne pas que ces derniers aient des problèmes. Hein. Je me souviens de ce que m'avait dit il y a quelques semaines un chauffeur de taxi. On passait justement devant le portrait de Mao, place Tiananmen, là où il y a toutes ces caméras, là où tout le monde est filtré, et il m'a dit, vous savez, on sait très bien hein, ce qui s'est passé ici, mais moi, j'ai choisi de ne rien dire à mon fils, j'avais trop peur que ça recommence. Donc ce n'est pas l'amnésie générale, hein, je dirais, Emmanuel. Mmh. Beaucoup de jeunes en Chine continentale ne sont tout simplement pas au courant, ce qui donne parfois des choses assez cocasses, hein, malgré la tristesse du moment. Le South China Morning Post, ici, je lisais ça dans le journal de Hong Kong il y a quelques jours, rapportait cette anecdote. Ça s'est passé il y a quelques années dans l'ouest de la Chine, une annonce pour commémorer Tiananmen a été publié dans les nouvelles du soir de Chengdu. Il faut toujours lire les nouvelles du soir de Chengdu. C'est la capitale de la grande province du Sichuan. Et là, la jeune employée du journal a laissé passer une annonce préposée. Elle était préposée à la relecture et donc à la censure, hein, cette jeune employée. Et elle a cru que c'était une annonce pour le souvenir de mineurs tués dans un coup de grisou. Donc vous voyez, elle n'était pas au courant. Et ici encore ce matin, toujours pour l'anecdote, j'ai été voir des jeunes touristes venus de Chine continentale. Il y en a beaucoup ici qui font du shopping, hein, dans le quartier où je me trouve. À la question, vous irez ce soir à la cérémonie au parc Victoria, là, à la cérémonie pour les commémorations. Mmh. Avez-vous même entendu parler du 4 juin ? Ben, j'ai vu des grands yeux ronds. Hein, donc, moi, j'ai compris que là, l'ignorance n'était pas feinte, en tout cas.
Ouais. Vous restez bien sûr en ligne avec nous, Stéphane Lagarde. François Bougon, Vanessa Franqueville, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une bataille de la mémoire ? Est-ce que les jeunes sont au cœur de cette bataille de la mémoire qui semble définitivement effacée, François Bougon ?
Oui, on peut le dire. On peut dire que Il y a une bataille des idées, c'est un des, depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, c'est pour ça que je considère que c'est un héritier fidèle de ce qui s'est passé en 89. Il y a une volonté de contrôle idéologique très très forte, il a compris qu'il fallait, un peu comme Mao avait dit, il y a deux manières de contrôler le peuple, l'armée, et puis l'autre c'est les idées en fait. Et donc c'est très très important, ça passe notamment par un contrôle renforcé sur les universités. On remet au goût du jour l'éducation patriotique, on remet au goût du jour tout le culte des héros, et puis puisqu'on parle de mémoire et d'histoire, il y a une volonté de à la fois de réécrire l'histoire mais de la contrôler et d'imposer sa vision de ce qu'a été l'histoire glorieuse du Parti communiste chinois.
Sur cette bataille de la mémoire, donc, elle est définitivement perdue, Vanessa Frankville ?
Non, je pense pas. Je pense que les jeunes Chinois, en particulier les jeunes urbains éduqués aujourd'hui, travaillent énormément à réécrire ou à écrire leur histoire personnelle, peut-être plus que l'histoire collective. Le grand récit national ne les intéresse pas. En revanche, ils sont très actifs, très créatifs pour créer leur propre histoire. Ça, c'est une première chose. Pour ajouter à ce que vient de dire François Bougon, il faut aussi préciser ou peut-être insister sur le fait qu'aujourd'hui, le militantisme est stigmatisé. Il y a une forme de stigmatisation par la société, par les parents, par les pères, par les professeurs qui mettent au banc tous ceux qui essayent de rappeler aujourd'hui ce qui s'est passé à Tiananmen il y a 30 ans. Et je pense que beaucoup de jeunes éduqués sur les campus le savent très bien.
Une stigmatisation orchestrée à la base par les autorités chinoises. Deng Xiaoping expliquait au lendemain des manifestations de Tiananmen que finalement tout ça était dû à une faiblesse de l'éducation idéologique. Alors comment très concrètement la jeunesse a été rééduquée depuis 30 ans ? Vanessa Frankville.
Dans un premier temps, dans les années 90, avec une campagne de patriotisme à l'école, avec des manuels, des cours toujours existants, dédiés à l'enseignement des idéologies marxistes, maoïstes, une surveillance qui s'est accrue au cours des dernières années, qui consiste notamment à placer des caméras, par exemple, dans les salles de cours, à faire des dénonciations des professeurs, mais aussi entre élèves, et également sur les campus, à, encore une fois, stigmatiser ces groupes, comme les étudiants marxistes, par exemple, dont on a entendu parler récemment, qui essayent de changer les choses.
Comment a été rééduquée cette jeunesse ? Vanessa Frankville nous le disait, donc il y a une surveillance accrue, mais dans l'enseignement, comment est présente cette rééducation de l'école primaire à l'université, François Bougon ?
C'est une mise en avant de ce grand récit national, en fait. C'est la mise en avant de la manière dont le parti a pris le pouvoir. C'est la présentation de héros positifs, en fait. Beaucoup d'histoires. Enfin, avec Xi Jinping,
pas par l'acculturation, hein.
Acculturation,
non,
vous voulez dire ?
Je veux dire qu'on enseigne bel et bien l'histoire en Chine, mais...
C'est une histoire, qui est complètement réécrite. C'est-à-dire, on met en avant les aspects positifs qu'a apporté le Parti communiste. On met en avant le fait que, grâce à l'arrivée au pouvoir du Parti communiste, la Chine a pu retrouver son rang mondial. C'est une histoire qui est beaucoup axée sur ce que les communistes appellent le siècle d'humiliation, c'est-à-dire cette
occidentale.
Mais ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est quelque chose qui avait été mis en avant par le Parti nationaliste de Chiang Kai-shek. Donc ça a été récupéré par le Parti communiste. Et c'est une rhétorique qui consiste à rappeler en permanence à quel point la Chine a été humiliée par les puissances occidentales. Et puis, vous avez des visites. Alors, c'est soit des visites organisées par les écoles, les universités, dans ce qu'on appelle les lieux, les sites rouges ou le tourisme rouge, c'est-à-dire des lieux où il y a des héros révolutionnaires, des lieux où il y a eu des révoltes, ou alors le Yuanmingyuan, qui est l'ancien palais d'été, qui a été démantelé par les puissances occidentales.
Oui, c'est ça. Donc, pour favoriser le patriotisme. Stéphane Lagarde, donc, on l'a dit, vous nous l'avez dit, censure absolue sur la répression il y a 30 ans. En Chine continentale, est-ce que du coup une mémoire du 4 juin est quand même possible, notamment chez les plus jeunes ? Est-ce qu'il y en a qui échappent finalement à cette amnésie ?
Alors moi je dirais en tout cas que effectivement, hein, votre invité l'a rappelé, les cours sont filmés, en tout cas les échanges entre professeurs et étudiants, donc c'est difficile d'en parler même à l'université. En même temps, moi je ne crois pas que la Chine soit un aquarium, en tout cas la Chine d'aujourd'hui, et on ne peut pas imaginer que tous les jeunes chinois, notamment tous ces jeunes qui sont dans des brillantes universités, ne savent pas. En avril dernier, le site China File a fait un appel au témoignage auprès des jeunes à ce sujet. Que savez-vous de Tiananmen, ou encore comment avez-vous appris sur cet événement? Et on entend dans les réponses, hein, je vous encourage vraiment à lire China File, je vous donnerai le lien, hein, si vous pouvez le mettre sur le site de l'émission. On lit le récit d'une jeune femme qui dit un jour avoir vu ses parents dans la pénombre regarder une vidéo. Elle s'est assise, elle n'a rien dit. C'était un documentaire qui s'est passé sous le manteau dans une ville du Shandong, un documentaire évidemment sur Tiananmen. Une autre raconte qu'elle a découvert Tiananmen en voyant un jour que le mot carotte était censuré sur le net chinois. Elle a cherché à comprendre pourquoi carotte, parce que le premier caractère de Huluobo, caractère chinois, François Bougon vous confirmera en studio, ressemble à Ru Yaobang, le nom du secrétaire général du parti dont la mort, vous le souvenez, en 89 a lancé le mouvement. Donc oui, moi je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a une mémoire, il y a beaucoup de gens qui savent mais qui ne veulent pas en parler. Exemple, on le voit aussi dans les réactions, on a appelé l'université de Beda, hein, donc là où tout a commencé, la prestigieuse université de Pékin la semaine dernière, pour faire un sujet sur une association d'étudiants qui s'occupe de nettoyer l'Everest. Hein. Vous voyez, c'est un sujet complètement positif, ce sont des étudiants chinois qui se mobilisent pour sauver ce sommet, ce toit du monde dont on parle beaucoup, qui est complètement pollué. Et là, on nous a répondu très gêné au téléphone, on nous a dit, oui, bien sûr, vous pouvez faire ce sujet, mais si vous pouvez venir après le 7 juin, hein, vous comprenez, hein, vous viendrez après le 7 juin, donc on est bien au courant qu'il y a eu le 4 juin, puisqu'on nous dit de se reporter à après. Pour les combats, François Bougon aussi pourra vous en parler, aujourd'hui, il y a des combats, par exemple les jeunes marxistes, il ne fait pas bon d'être un jeune marxiste aujourd'hui, des jeunes qui sont très à gauche, donc qui défendent les théories de Marx sont arrêtés en ce moment en Chine, parce qu'on les considère trop rebelles. Il y a aussi à Hong Kong, par exemple, d'autres combats qui gênent parfois d'ailleurs les commémorations, ce qu'on appelle ici les loyalistes, hein, puisque je suis à Hong Kong, des gens qui se sont manifestés notamment pendant la révolte des parapluies, en disant qu'il faut défendre d'abord ce qui est ici, les libertés à Hong Kong, et pas s'intéresser au reste de la Chine. Donc c'est compliqué, effectivement. Le dernier sondage publié hier, hein, je crois, de l'Université de Hong Kong, dit quand même que 83% des jeunes hongkongais condamnent l'action répressive, la répression en tout cas de l'appareil d'État chinois il y a 30 ans.
Mais alors, du coup, François Bougon, ces étudiants qui ont vaguement entendu parler de la répression de Tiananmen, puisque on le voit bien, cette date fatidique, on dit beaucoup en ce moment, on en parlera après, d'ailleurs l'internet chinois a été encore plus bouclé que d'habitude, il y a néanmoins des contestations d'un autre ordre. Alors, est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, est-ce qu'il y a des héritiers de Tiananmen ou pas, Vanessa Franqueville et François Bougon?
Bonne question.
D'un autre ordre, sur d'autres
causes?
Oui,
je pense que... Alors, peut-être que Vanessa pourra confirmer ce que je dis, mais je pense que si on regarde ce qui se passe... Alors, bien sûr, on peut... Il faut aussi dire qu'on ne peut pas généraliser, on ne peut pas parler d'une jeunesse. Moi, je me méfie toujours des généralisations. Ce qui est assez intéressant de voir, c'est que c'est sûr qu'on n'a pas ce mouvement d'ampleur qui a réuni toute la jeunesse chinoise quand même en 89. On a sûrement des jeunes qui sont militants, d'autres qui sont apathiques, d'autres indifférents, peut-être beaucoup sont nationalistes. Donc en fait, il faut voir cette diversité, mais qui reflète aussi la diversité de la Chine d'aujourd'hui. Je voulais juste, si vous me permettez, parce que Stéphane Lagarde a mentionné cette petite annonce. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette petite annonce, c'est un militant qui s'appelle Chen Yunfei qui a fait ça. Lui, il a décidé de militer pour la mémoire de Tiananmen. Il se rend tous les ans sur la tombe de gens qui sont morts. Et donc, ça a entraîné des ennuis sérieux. Et alors, il a appelé donc ce journal et la personne lui a dit c'est quoi le 4 juin? Donc il a dit non, mais c'est un accident de mine, etc. Donc ça montre bien le fait que le cerveau de la jeune femme qui écoutait du service marketing était complètement lavé. Et d'autre part, lui après, bon aujourd'hui il a été condamné à 4 ans de prison en 2015 et il utilise l'arme de l'humour. Il s'est rendu à son procès revêtu d'un pyjama. Et pourquoi? Il a dit, j'ai envie de vivre le rêve chinois. Voilà.
Les héritiers de Tiananmen, vous citiez notamment ces étudiants marxistes qui finalement retournent contre le pouvoir l'enseignement marxiste pour défendre les ouvriers de Shenzhen. Est-ce qu'aujourd'hui, ils pourraient faire partie d'un héritage Tiananmen d'un autre ordre, Vanessa Franqueville?
Je pense que ce sont des mouvements très marginaux et qu'il faut les voir comme ça. Ce sont des mouvements qui portent des idéologies qui sont très clairement énoncées et qui sont fort intéressantes, mais ça reste quelque chose d'assez anecdotique sur l'ensemble de la jeunesse chinoise, ça c'est une certitude. Tout le monde ne pensera pas à se mettre en pyjama à un procès. Ça rappelle Wang Kai-shek quand il s'est présenté devant les dirigeants chinois, justement, un peu avant le 4 juin pour négocier. Je crois que ici, dans la jeunesse d'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas tout penser en termes de résistance. On peut penser en termes d'alternatives. Donc, plutôt que d'être dans un conflit direct, on est, comme le disait François tout à l'heure, dans l'humour, dans l'autodérision, dans la recherche d'autres façons de s'exprimer. Je pense à la culture Tiaose, par exemple, qui est typiquement la culture des jeunes chinois urbains, désœuvrés, sans emploi stable, sans petit ami ou sans petite amie. Ouais.
Quelle est-elle exactement, cette culture ?
Donc, c'est une culture vraiment de l'autodérision, un contre-modèle, je dirais plus même. On est contre ce modèle d'une réussite sociale à tout prix, d'une réussite sociale qui se base aussi peut-être sur un conflit permanent avec les autres pour une réussite individuelle. Et on est donc un loser assumé. C'est le sens de Tiaozi qui littéralement signifie poil de pubis. Voilà. Donc on est vraiment dans une société comme ça, comme ils se déterminent eux-mêmes, de branleurs assumés.
Oui, mais un mouvement évidemment très marginal. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, Stéphane Lagarde, avant que nous vous libérions pour assurer la suite des commémorations?
Non, mais je suis d'accord avec vos invités, évidemment. Hein. Il y a peu de jeunes qui manifesteront aujourd'hui en Chine continentale, en tout cas, ou parleront même du 4 juin. Mais bon, c'est pas une mémoire effacée complètement. Et puis, il y a plein de formes aujourd'hui, effectivement, notamment dans l'humour. L'humour sur Internet, malgré toute la censure, hein, le réseau Sina Weibo aujourd'hui est presque tout complètement bouclé. Pour ce 4 juin, il y a quand même encore beaucoup d'humour sur les réseaux chinois. Et on lit entre les lignes. Moi, je trouve que l'humour des jeunes chinois est presque celui des anglo-saxons. Voilà, il y a encore une façon aussi de résister autrement. En tout cas, de parler autrement dans ce pays.
Merci à vous, Stéphane Lagarde, d'avoir été en ligne en direct avec nous. On poursuit notre discussion avec vous, François Bougon et Vanessa Franqueville. Alors, très concrètement, aujourd'hui, comment les universités sont placées sous contrôle ? Parce qu'il y a en même temps une énorme émulation intellectuelle dans ces universités. On a énormément de diplômés. Le nombre d'universités, d'étudiants a énormément bondi ces 10 dernières années. Donc, comment faire pour contrôler ces lieux d'apprentissage, ces lieux de vie intellectuelle, François Bougon ?
Bah, le contrôle, il passe par la nomination de personnalités qui sont souvent des personnalités très proches du régime et donc qui ont reçu pour mission de faire en sorte que ce soit des lieux totalement contrôlés. Et puis comme on le disait au début, c'est-à-dire des cours de marxisme-léninisme qui ont été remis au goût du jour, une présence de plus en plus forte du parti. C'est vrai que il faut aussi se rappeler que durant le mandat de Hu Jintao, il y a eu aux yeux de ceux qui gouvernent aujourd'hui, il y a eu une sorte de relâchement en fait. Xi Jinping considère qu'on a laissé trop de choses se faire, on a laissé trop de... La société civile avait beaucoup plus... Alors, c'est quand même paradoxal, parce que bon, quand j'ai vécu, on se plaignait quand même de cette présence constante des services de sécurité, mais aujourd'hui, on le voit presque comme un âge d'or, ce qui est paradoxal. Et donc, il faut s'imaginer que...
parle de l'hiver, du militantisme aujourd'hui.
Tout à fait, oui, c'est le principal ennemi, c'est la société civile. Donc en fait, les universités n'échappent pas à ce phénomène général qui touche l'ensemble de la société.
Vous parliez de ce concept de société civile. Est-ce qu'il existe tel quel, d'ailleurs tel qu'on le conçoit en Occident, Vanessa Franqueville? Société civile, c'est une expression qui circule dans les universités?
C'est un vaste débat.
Il y a une traduction d'ailleurs.
C'est un très vaste débat dans les études chinoises, tout le monde n'est pas d'accord. C'est une discussion qui a surtout été menée dans les années 90-2000, sans doute suite à Tiananmen et aux réformes économiques accélérées. Est-ce qu'il existe une société civile en Chine? Elle est compliquée. Les formes de gouvernance en Chine sont compliquées, elles se situent à plusieurs niveaux. Vous avez le niveau national, mais vous avez surtout le niveau local, vous avez les niveaux locaux. Donc à partir de là, moi je pense qu'il existe une société civile, qu'elle est présente, qu'elle est active. mais qu'elle ne peut pas s'exprimer dans les mêmes conditions que chez nous. Donc on n'est pas dans des configurations où les individus peuvent se regrouper de façon aussi spontanée, aussi simple et sans risque.
Très concrètement d'ailleurs, comment on fait pour se réunir en groupe sur un campus ou entre jeunes pour discuter?
Les réseaux sociaux, on communique par réseaux sociaux beaucoup. WeChat, pardon, c'est l'application privilégiée. Elle est très surveillée, tout Internet est très surveillé.
Mais donc comment on peut fixer des lieux de rendez-vous pour débattre?
Plus on est public, moins on prend de risques. On peut faire comme si on était public et puis faire autre chose dans les espaces collectifs qu'on est en train de créer. Donc on crée plutôt des espaces collectifs que publics, c'est autre chose. On va se réunir par exemple dans les appartements, ouais. On va se réunir dans la chambre d'un dortoir, ouais. On va se réunir dans un café, on va se réunir dans un bar et on va avoir des discussions underground mais ouvertes avec une annonce qui peut être partagée.
Sans risque, avec téléphone portable coupé ou là aussi il peut y avoir une forme de moucharde?
Il peut toujours y avoir des risques, évidemment, mais à ma connaissance, non. J'ai jamais vu des réunions secrètes qui se tenaient à portable fermé.
Et dans ces espaces alternatifs aux manifestations qui sont largement interdites, on parle de quoi alors du coup?
On parle de tout, on parle des injustices sociales, on parle de l'environnement, on parle des questions qui préoccupent les jeunes chez nous aussi. On échange aussi des informations sur d'autres étudiants qui ont été interrogés, qui ont été arrêtés ou qui ont été invités à prendre le thé. On parle du quotidien, on parle des difficultés des soins de santé. On est vraiment dans des préoccupations, j'ai envie de dire, très basiques. Et parfois, le débat, évidemment, peut monter en hauteur avec des discussions plus générales sur les idées comme la démocratie, comme ce qui s'est passé, pourquoi pas, à Tiananmen. Ça n'est pas non plus un sujet qui est absolument interdit. Tout dépend de la façon dont on en parle.
Oui. Encore faut-il pouvoir se renseigner et comprendre quels ont été les événements. Si on veut s'informer sur Tiananmen et qu'on est en Chine, comment on fait concrètement, François Bougon? Parce qu'il y a des sites en chinois par des exilés chinois, notamment aux États-Unis. Il y a un site 64memo.com qui archive les documents, les témoignages, etc. depuis 30 ans, mais concrètement, comment les jeunes ont accès à ces sites, si tant est qu'ils aient la curiosité aussi de comprendre quelle a été cette date du 4 juin 1989
Oui, de toute façon, une grande... Enfin, c'est pas une jeunesse, c'est la même jeunesse que la nôtre. Elle est confrontée au même problème que notre jeunesse. Elle est confrontée à une pression sur l'emploi, la pression des parents. Il faut s'imaginer ce que c'est que l'examen d'entrée à l'université qui s'appelle le Kaokao, et qui est un examen extrêmement concurrentiel, extrêmement compétitif, avec des parents qui viennent dormir près des lieux d'examen pour que leurs enfants puissent rentrer dans les meilleures universités. Donc c'est pas une jeunesse c'est une jeunesse qui appartient à notre monde aujourd'hui, à notre monde globalisé. Alors comment elle fait pour ce qu'on appelle en chinois fan tiang, c'est-à-dire passer le mur, essayer de trouver des informations? Je pense que la plupart essayent d'avoir des VPN, mais même les VPN aujourd'hui sont de plus en plus contrôlés, réprimés. Donc, et encore faut-il qu'ils aient envie. C'est ça la grande question. Est-ce qu'ils ont envie de savoir ce qui s'est passé à Tiananmen? Pas tous, ça c'est sûr, pas tous. Après, ce qui est intéressant, je trouve, c'est quand on parle de cette mémoire souterraine de Tiananmen, il y a 3 mois, il y a un chanteur qui est assez populaire parmi les jeunes, qui s'appelle Li Zhe, qui est un chanteur de pop folk. Alors, c'est pas un chanteur engagé, c'est un chanteur qui parle des problèmes de la Chine, des problèmes quotidiens, des problèmes que rencontrent à la fois les jeunes, les vieux, etc. Et en fait, il devait faire une tournée et tout d'un coup, il a disparu. Et pourquoi il a disparu? Parce que justement, il y a certaines chansons, et notamment une chanson qui s'appelle Quangchang, qui s'appelle La Place. Et il dit, voilà, cette place est devenue ma tombe. Oui. Et en fait, juste...
Évidemment, ceux qui savent comprennent.
Voilà, et dans ses concerts, alors certains sont sur YouTube, mais il a aussi une chanson qui dit « Les gens ne veulent pas de la liberté et les gens dans la salle reprennent « Nous vivons la plus formidable des époques ». Et ça revient, c'est-à-dire que c'est une manière de se moquer un peu de la propagande officielle.
Ironie.
Ouais. Alors justement, on va marquer une pause avec du hip-hop chinois, pas cet artiste dont vous parliez, mais un autre qui est aussi la cible des autorités, c'est PG One, le rappeur Wang Hao, qui a eu des difficultés. On l'écoute.
躺在我的更年当中，头脑开始发懵，我的超能力提醒我有些事将马上发生，和我还有工资要干。路飞开白的因为他偶尔才来看，不知何时能再会，所以要就是我的 homie 杜板的 Biggie 顺便带上去，当然还有 my Snoopy 让他跟我加起三只满足我的胃，吃完当然要散步，索隆已被我灌醋，但酒量不行依然喝个不停，但非是我们算数的，叫我狮子狗狗烦恼风，如果这里留我肯定全狗风，加入苦练会必须打呼变空气，再不敢继续我老公见我是笑脸把你揪脸 Don't worry 口里我马几个 night Only one come is the mom 该加上几下山羊兵，小心我管着妖艳，没我背着像小一样硬，他们都叫我中二病，开架像金山山羊兵，小心我管着妖艳，没我背着像小一样硬。 I'm a psycho 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 yeah I'm a psycho 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 only 我 psycho这样的事情要重复三遍，怎能为一个 level 老子用爱你录的电影，后勤面的肆意践踏，卖力就犹如那不用崩开山如麻的钢木剑拔，就算你有钢筋铁臂真机过可以让你变家，我有着风控危机和嘎嘎西神秘的面让咱明白想正在我歌词一直在播，我知道我有重耳继续在播，但咱们弱小的我看到就想笑，力量明明摆在眼前顿就是找不着，老子是反派要转换，别跟着让他们惨败，公然压所有的板块，从此我就是要反带，老子要把这个扭曲的丑陋的虚伪的切撕裂，请原谅我的人性，错的不是我，错的是这个世界， So call me 最后的大魔王， So call me 最后的大魔王， So call me 最后的大魔王，
c'est le rappeur Wong Hao, alias PG1, accusé par les autorités de diffuser des valeurs non conformes à celles du Parti communiste. D'ailleurs, il a dû présenter des excuses publiques pour ses paroles obscènes. On ne raconte pas beaucoup que même le rap présente un danger réel de contestation politique, un danger réel politique pour les autorités ou pas forcément, Vanessa Franguil?
Toute forme de production culturelle, si elle présente des interprétations multiples, est dangereuse. Ça peut être un film, ça peut être une chanson, ça peut être même une œuvre d'art, si vous voulez. Dans le même répertoire musical, vous avez un groupe dont le nom m'échappe aujourd'hui, mais qui chantait cette chanson de hard rock, Chonan Rai, et qui jetait des cigarettes Chonan Rai, de la marque Chonan Rai, par terre en les écrasant du pied. Or, Chonan Rai, c'est le siège du parti.
C'est en fait, quand on parle de ces valeurs et les valeurs socialistes, je pense que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'avec Xi Jinping, on est dans une sorte d'ordre moral. On est, ce que je disais tout à l'heure, on est dans la mise en avant de ce qu'on appelle les valeurs socialistes. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu moraliste, en fait. Et donc, systématiquement, les cadres peuvent avoir recours à ces attaques en disant que ce sont des paroles obscènes ou des productions culturelles obscènes, à partir du moment où elles ne rentrent pas dans ce que Xi Jinping veut mettre en œuvre. Il l'a répété à plusieurs reprises quand il reçoit les artistes. Il dit que les artistes sont là pour produire des œuvres positives qui doivent contribuer à l'édification d'une société socialiste harmonieuse, avec des belles valeurs, en fait.
Donc protéger la jeunesse contre elle-même.
Tout à fait.
Finalement.
Voilà, oui.
C'est le cas notamment pour les jeux vidéo. On sait qu'il y a énormément de jeunes. On a une jeunesse qui est très connectée à des jeux vidéo. Il y a eu des mesures qui ont été prises pour limiter le temps passé sur les jeux vidéo. Ça vous dit quelque chose, non ?
Vous avez beaucoup de jeux vidéo en ligne, effectivement. Je ne suis pas au courant spécialement de ces mesures, mais là aussi, il y a une grande contradiction où vous avez des jeux vidéo créés par des entreprises chinoises dans lesquelles on peut tirer sur des soldats japonais, ce qui me paraît tout à fait obscène. Et puis, à côté de ça, vous avez très certainement de la censure sur les contenus ou une limitation dans les utilisations, peut-être notamment dans les cybercafés.
Il y a eu, sur les jeux vidéo, moi je ne suis pas un spécialiste des jeux vidéo, je dois avouer que mon, même en général, mon âge fait que. Mais c'est vrai que, par exemple, alors c'est là où on voit la confrontation de plusieurs principes. C'est-à-dire Tencent, qui est une des plus grosses entreprises technologiques chinoises et qui produit beaucoup de jeux vidéo et qui gagne beaucoup d'argent avec des jeux vidéo, a dû attendre un certain nombre de mois pour obtenir l'autorisation d'en sortir de nouveau, en fait. Mais il y a des pressions, c'est-à-dire que au sein de la société, et notamment au sein du gouvernement, certains disent, mais il faut faire en sorte que Tencent gagne de l'argent, et puis de l'autre côté, vous avez d'autres personnes qui disent, non, il faut faire en sorte qu'ils sortent des jeux qui soient beaucoup plus conformes à ce qu'on veut mettre en place idéologiquement.
C'est la contradiction perpétuelle.
C'est ça, la contradiction perpétuelle aussi, qui est-ce que les autorités n'ont pas aussi un peu intérêt à avoir une jeunesse plus lobotomisée par les jeux vidéo, donc une jeunesse qui réfléchit moins, qui critique moins. La surveillance, vous l'avez dit tout à l'heure, grâce à Internet, est une surveillance qui s'est accrue ces dernières années. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle aussi qui arrive, qui est déjà à l'œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement pour ceux qui souhaiteraient militer, qui souhaiteraient s'exprimer? On l'a vu dans la presse, la province du Xinjiang où vivent les minorités ouïghours permettent avec cette intelligence artificielle une efficacité incroyable pour traquer les manifestants, pour traquer les contestataires. Qu'est-ce qui est en train de se jouer là avec les nouvelles technologies pour embrigader encore davantage la jeunesse?
Vous êtes sans doute au courant de la mise en place qui est prévue, effective en 2020, du crédit social, en particulier du crédit social pour les jeunes. En chinois, c'est le Qinian Xiong, qui est un système qui fonctionne avec le bâton et la carotte. Donc, si vous faites des actions en phase avec une certaine idéologie, par exemple, vous allez lire un certain ouvrage ou acheter un certain jeu vidéo, pourquoi pas, il y a aussi des jeux vidéo patriotes, vous allez gagner des points. Et puis, si au contraire...
Il faut bien préciser pour que nos auditeurs comprennent, c'est que de toute façon, on achète tout avec son smartphone.
Tout passe par la technologie.
Par la télé, il n'y a plus de cash pratiquement.
Presque plus de porte-monnaie,
plus de cash. Donc on peut savoir exactement tout ce que vous dépensez tous les jours.
On sait où vous allez, on sait ce que vous avez fait, avec qui vous avez parlé, qui vous avez rencontré, ce que vous avez payé, ce que vous avez mangé, où vous avez dormi, etc.
Donc le crédit social, il va se bâtir sur tout cela, toutes ces informations sur chaque personne, chaque citoyen.
Oui, alors, ce qui est intéressant aussi à noter, pour sortir un peu peut-être du champ politique, mais puisqu'on parle de la jeunesse, ce qu'il faudrait souligner aussi, c'est que c'est une jeunesse extrêmement technophile, en fait, qui s'approprie. Moi, c'est toujours ce qui m'a frappé en Chine, c'est la manière dont la jeunesse s'approprie les derniers outils technologiques, beaucoup plus qu'en Occident, en fait. Je pense que c'est ce qui me frappe. Par exemple, le succès de sites internet où on voit des jeunes manger devant leur écran, passer des musiques,
comme
etc.
Comme en Corée du Sud, oui.
Voilà, donc en fait...
Moins de méfiance donc sur le flicage Internet, comme on peut le voir en Occident.
Un autre rapport.
C'est un autre rapport, je pense, à la technologie. Alors après, il y a un pendant politique, bien sûr, qui peut être utilisé par les autorités, mais je pense qu'il faut aussi voir que... parce que vous utilisez le terme de lobotomiser, ça me gêne toujours, parce que il y a un côté presque condescendant vis-à-vis de cette société chinoise, qui est quand même une société, et c'est ça qui est compliqué à raconter aujourd'hui quand on parle de la Chine, parce qu'on a toujours des idées. C'est peut-être notre esprit cartésien, on veut du noir et blanc, mais c'est voilà, il y a des interstices, il y a des gens qui se faufilent dans ces interstices, ils sont pas forcément lobotomisés, ils vivent leur vie.
On est dans la société de la performance technologique,
oui,
scientifique,
oui,
etc.
Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi, il peut y avoir aussi des éléments de volonté propre de participer à cette société.
Il peut y avoir des détournements aussi des technologies par lesquelles on est surveillé, avec des systèmes de code, avec justement, je le disais tout à l'heure, des moyens de se mobiliser à travers les réseaux sociaux. Donc il y a une interactivité et une activité très importante à souligner de ces jeunes vis-à-vis de la technologie, qui n'est pas qu'un outil de répression. Et malheureusement, c'est la difficulté à faire la différence entre l'utilisation banalisée et l'utilisation qui pourrait être plus problématique quand le cas se présente. qui est parfois difficile à comprendre.
Vous évoquiez la réforme, enfin l'installation du crédit social d'ici 2020. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus concrètement, donc le bâton, la carotte, comment ça va fonctionner pour les individus, le crédit social ?
Concrètement, vous avez déjà des espaces dans lesquels des essais sont portés par ce qu'on appelle des volontaires. En chinois, le terme volontaire est toujours un petit peu problématique. Disons que ce sont des jeunes à qui on a largement suggéré de faire les cobayes, en particulier sur la côte est, dans la région du Jiangsu, par exemple, les provinces qui environnent Shanghai. Donc dans ces zones test, il s'agit encore une fois, à partir des données qui sont récupérées par non seulement le téléphone portable, mais aussi les vidéos par reconnaissance faciale qui sont dans les rues, encore une fois, toutes les données qui sont enregistrées par les métros, par les trains, dans tous ces environnements publics. Il s'agit de faire un état des lieux du bon comportement, entre guillemets, de ces jeunes citoyens. Donc le bâton, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être effectivement enlever des points lorsque la personne a fraudé, a pris le métro sans payer son ticket. Ça peut être rajouter des points quand la personne a acheté les dernières mémoires de Xi Jinping, concrètement.
Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, oui. Après, c'est vrai que ce système de crédit social fait couler beaucoup d'encre ici. C'est vrai que c'est un système technologiquement, il y a beaucoup de défis. Je ne suis pas non plus un spécialiste, mais en tout cas, les gens qui travaillent dessus disent que pour mettre en place un tel système, ça va demander quand même beaucoup, beaucoup de moyens. Déjà, il n'existe pas encore en Chine de sécurité sociale au niveau national. Donc voilà, il y a aussi ça, c'est que il y a une volonté sûrement du pouvoir de mettre en place de tels outils. Après, pour y arriver, ça sera une autre histoire.
Et en tout cas, de mettre la technologie au service du contrôle social.
Ils y sont arrivés au Xinjiang, ça c'est très clair. Voilà. Chez les Ouïghours, c'est un laboratoire et on peut penser que c'est un laboratoire qui va chercher à étendre ses expériences à l'ensemble de la Chine.
Dans quelques instants, évidemment, il faut qu'on parle de l'économie qui s'essouffle, de l'emploi, de l'extrême compétition aussi pour les emplois dans un pays où on a énormément de diplômés. Je le disais en introduction de cette émission, c'est le pays qui fournit le plus gros contingent de diplômés à la planète. On en discute dans quelques instants. Vous restez avec nous, Vanessa Franqueville et François Bougon. On écoute 7 milliards de voisins. On est en direct sur RFI. Une pause avec un autre rappeur chinois.
对头，重庆山歌不能比，就凭你们全部加一切。 来跟头跳，一坑凹下鸡又汤汤的跟头毛，来比很糟，连高都笑，尬戏都有人值得，演不心头绕，都聪明惨，那么几个翻倍聪明不？我们的 voice 听完过人会去啃包谷，慢慢的玩我不打击别地里青头路，师兄在哪个 level？ 心头都有数，吃不完的火锅又切起拿来撒。我份儿拿得太顶，不像你说的好假。那如果不行的话，随时过来搞一下。欢迎光临重庆飞机帮你造一家。
有两个兄弟人，一半很混。我妈说钱找不完，更要慢慢存。街上的人好多，有几个真的空。脑壳头有好过钱，往我的包包都送。要孝顺点，脚多看点报。富家富为娃儿，小打小闹，福禄找超，衣服和毛 ，rap star 都需要被平衡好。问题都丢给你个人吉祥，假装成功你都没得信仰。中国血液在我身上流淌，祝你有朝一日活得健康。我要吃火锅，你吃火锅。 小火锅，因为我讲礼貌，我讲很火又好，多个人拿着比较，包包的馍馍，这个月才几号？我会吃火锅，你吃火锅底料，料你小火锅，因为我讲。
Voilà, c'est un autre rappeur, Zhu Yan, alias G.A.I., je ne sais pas comment on prononce en chinois, mais enfin, ce n'est pas le grand ami de PG One qu'on écoutait tout à l'heure. Bon, enfin, en tout cas, lui aussi a des problèmes avec les autorités chinoises. Vous nous disiez d'ailleurs, Vanessa Frankville, que de très nombreux artistes ont des problèmes avec les autorités chinoises, d'ailleurs plus ou moins justifiés, y compris pour des contrôles fiscaux.
Oui, on est encore dans cette idée qu'il faut des modèles. Donc, toutes les figures publiques se doivent à nouveau de respecter certaines valeurs. Et si elles sont dans une moindre mesure ou dans une plus grande mesure contre ces valeurs, alors effectivement, elles sont la cible des autorités chinoises.
Vanessa Frankville, vous êtes avec nous. Vous êtes spécialiste de la Chine et des jeunesses en Asie. François Bougon, vous êtes journaliste au Monde. Vous avez publié La Chine sous contrôle, Tiananmen 1989-2019. En effet, on s'interroge sur cette jeunesse chinoise aujourd'hui, 30 ans après le massacre de Tiananmen. Est-elle réellement totalement différente? Une chose est sûre, c'est que les prévisions pour 2020 en Chine, c'est 60 millions de diplômés chinois. 29% de la population mondiale, ça représente, hein, ces 60 millions de diplômés chinois. Est-ce que les autorités chinoises poussent depuis de longues dates à faire de longues études? Est-ce qu'il y a une pression politique pour que les jeunes fassent des études, François Bougon?
Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a une volonté de former, d'éduquer la jeunesse, mais ça c'est... ça date du sortir de la révolution culturelle. C'est à partir du moment où on a remis en route les universités, la première génération, c'est 77. L'une des priorités, c'est quand même de développer l'éducation. Ça, c'est sûr. Ça fait partie des quatre modernisations de Deng Xiaoping. Il fixe quatre modernisations et l'une des modernisations, c'est l'éducation. Donc, c'est évident que la Chine veut avoir des jeunes les plus éduqués, les plus diplômés possible, parce qu'ils savent que c'est une clé de développement. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, l'objectif des dirigeants, donc Xi Jinping en tête, c'est de modifier la structure de l'économie chinoise, d'avoir des industries beaucoup plus de haute technologie pour avoir beaucoup plus d'argent. Donc, on le voit bien dans le conflit avec les États-Unis, on le voit bien avec Huawei. Et donc, tout ça va de pair, le fait de vouloir développer, d'avoir une jeunesse beaucoup plus diplômée. Et c'est vrai que ça, on le voit, c'est que la Chine dépose beaucoup de brevets. Bon, après, il y a encore certains problèmes au sein d'universités, mais oui, il y a vraiment une volonté d'avoir une jeunesse la plus éduquée possible.
En 10 ans, la Chine a doublé son nombre d'universités. On parle d'un taux de chômage chez les jeunes assez élevé, 16%. Est-ce que ça correspond à une réalité? Est-ce que réellement, aujourd'hui, il y a un problème pour les jeunes diplômés pour s'insérer sur le marché de l'emploi? En tout cas, est-ce que les emplois qu'ils trouvent n'est pas à la mesure des efforts qui ont été déployés aussi par les familles pour rentrer dans de bonnes universités, dans un pays où on a une croissance économique, c'est vrai, à son plus bas niveau depuis 30 ans? Vanessa Frankville.
Je dirais que c'est ce qui fait à nouveau des jeunes Chinois des citoyens mondiaux, parce que les problématiques que vous soulevez, elles existent partout. Elles existent en France, en Belgique, partout ailleurs. Aujourd'hui, peut-être ce qui peut distinguer les cas chinois, si vous voulez, c'est effectivement cette pression familiale très importante, au-delà de toute l'orchestration gouvernementale qui souhaite effectivement avoir toujours plus de diplômés. Mais vous avez aussi une très grande pression familiale avec les parents qui souvent ont vécu la révolution culturelle ou l'ont vécu en tant qu'enfant de la révolution culturelle et qui n'ont pas eu cette chance d'être éduqués et qui donc poussent leurs enfants à le faire. La politique de l'enfant unique, c'est une pression supplémentaire puisqu'aujourd'hui, c'est l'enfant qui porte les parents et les grands-parents des deux côtés, donc 6 adultes, un enfant. Il faut assurer la retraite, il faut assurer la santé.
Il n'y a pas de système de retraite.
Il y a des systèmes de retraite, il y en a, mais pour une partie infime de la population. La grande majorité de la population repose aujourd'hui sur ses propres économies lorsqu'elle part à la retraite ou sur le salaire des enfants ou des petits-enfants.
Ça veut dire qu'il faut élaborer des stratégies très individualistes
Exactement.
Si on veut survivre à la retraite. On a aussi dit que finalement cette politique de l'enfant unique, de l'enfant roi, qui en même temps a une grosse pression mais qui est très gâtée par ses parents, on avait fait une génération d'individualistes. Est-ce que ça aussi, ça pourrait expliquer ou pas, hein, je ne sais pas, mais pour vous François Bougon, une forme de désengagement aussi de la chose commune, de la chose publique, de la chose politique?
Oui, après moi je suis toujours un peu sceptique sur ce genre d'explication, parce que je pense que en France aussi on a vécu une période où l'idéologie occupait beaucoup moins de place. Donc je pense qu'on pourrait faire des parallèles aussi, c'est-à-dire que c'est évident qu'à partir du moment où à partir de 89 le régime met l'accent sur le développement économique, il faut s'enrichir, la société elle devient beaucoup plus matérialiste, l'idéologie passe un peu derrière. Aujourd'hui, ce qu'on voit avec Xi Jinping, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est que vous avez d'un côté une société vraiment très matérialiste. Tous ceux qui sont allés en Chine le voient. Je veux dire, le développement économique le prouve. C'est Shanghai, ces grandes villes. Et puis d'un autre côté, vous avez une volonté de Xi Jinping de remettre un cadre idéologique très très fort qui puise dans des références des années 50. Donc la question se pose tout le temps de savoir jusqu'à quand c'est possible, ou alors est-ce que c'est une sorte de cohabitation et puis surtout beaucoup d'indifférence. Il y a quand même beaucoup d'indifférence des gens que je connais vis-à-vis de ces slogans qui leur paraissent totalement vides de sens en fait. Le nationalisme marche peut-être, mais toutes ces références au marxisme-léninisme, aux héros de la révolution ne sont guère écoutées.
Mais la fierté nationale est quand même aujourd'hui une composante importante de la jeunesse.
Je pense que c'est une composante importante du pays. C'est,
avec sa réussite économique.
Alors nous, on a du mal, je pense que nous, occidentaux, on a du mal à le comprendre, parce que nous, on est dans depuis de nombreuses années, on est plutôt dans la déconstruction, alors que la Chine, elle a été dans la construction. Alors je pense qu'on vit aujourd'hui un moment charnière avec Xi Jinping, mais on est encore dans une société où le nationalisme est considéré comme quelque chose de normal, de positif.
Mais il y a en même temps beaucoup d'intellectuels en exil qui décrivent cette jeunesse chinoise très aveuglée par la réussite matérielle, par l'argent, par que finalement on comble une sorte de vide idéologique, de vide intellectuel par du shopping. Est-ce que c'est trop caricatural pour vous, Vanessa Frankville?
Oui, ça l'est. C'est quelque chose que j'ai déjà entendu pour d'autres jeunesses d'autres pays. Donc je pense que oui, c'est un point de vue générationnel, de conflit générationnel qui est tout à fait généralisable. Je crois, moi, au contraire, qu'aujourd'hui, les jeunes Chinois sont capables de créer des espaces de façon encore beaucoup plus créative, beaucoup plus active que les générations précédentes. Je pense que ces mêmes jeunes sont tout à fait à même de penser par eux-mêmes. Je suis d'accord avec François, parler de lobotomisation, c'est trop. Ils naviguent à vue, c'est vrai, mais ils naviguent dans ces espaces et ils naviguent en produisant des choses tout à fait intéressantes. Il faut aller voir sur Internet, il faut aller voir la scène musicale, il faut aller voir la scène artistique ou la scène littéraire, la cyberlittérature. C'est vraiment une plateforme extrêmement riche avec des millions de jeunes gens qui écrivent ensemble.
Si tant est qu'on puisse bien comprendre où se situent les limites pour pouvoir s'exprimer.
Mais ils savent très bien.
Merci à vous, en tout cas, Vanessa Frankville, spécialiste de la Chine et des jeunesses en Asie, Université libre de Bruxelles. Merci à vous, François Bougon. Vous publiez La Chine sous contrôle. Merci aussi à toute l'équipe et à Stéphane Lagarde qui était en direct avec nous. Demain, c'est le rendez-vous des tchatcheuses. Comme chaque mois, je reçois trois femmes journalistes de trois continents. C'est bien cela pour commenter l'actu.